morning edition from NPR News.
MCT Sandinga House.
Halliam Radio Rosana Piperis.
Produce get in la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Benjamin Netanyahou, chef de guerre et qui ne semble pas pressé d'en finir. Nous verrons comment Israël vit ce conflit supplémentaire. La population fait corps derrière son Premier ministre qui pourrait bien gagner les prochaines élections. On en parle dans un instant. Pendant que le monde regarde vers le Proche et le Moyen-Orient, l'Ukraine, elle, aimerait bien ne pas être oubliée. Louise Baudet remettra le monde à l'endroit. Un pont entre deux rives, très géopolitique, un pont en construction entre la Chine et l'archipel de Kinemun qui appartient à Taïwan.
Si nous étions en paix, je ne m'opposerais pas à ce pont. Mais dans la situation actuelle, je ne pense pas que sa construction soit une bonne idée.
Ce sera le reportage d'un jour dans le monde de Sébastien Berriot. Quel est le plus gros importateur d'armes en Afrique? Réponse, le Maroc, nous dira Guillaume Auda. Dans Sous les radars, il nous emmènera aussi à Londres admirer la Normandie peinte par David Hockney. Les représentations de la guerre dans la tech, la première. Stéphane Jourdain s'interroge. Est-on en train de fabriquer plus de fausses images que de vraies? Un jour dans le monde, c'est parti pour de vrai. Notre aspiration est de libérer le peuple iranien du joug de la tyrannie. En fin de compte, ça dépend de lui. Mais il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os. C'est Benjamin Netanyahou qui parle, chef de guerre sur tous les fronts, contre l'Iran, contre le Hezbollah au Liban, contre le Hamas à Gaza. L'État hébreu est en guerre continue depuis l'attaque du 7 octobre 2023 et veut en finir avec ce qu'il appelle une menace existentielle. Sa puissance militaire n'a jamais été aussi forte. Israël, dont les habitants à Tel Aviv ou encore Jérusalem vivent avec la menace des bombes et font corps avec leurs leaders. 8 Israéliens sur 10 soutiennent la guerre. Le ministre de la Défense promet que l'offensive se poursuivra sans limite de temps. Bonsoir Alain Dikoff.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po, auteur aussi de Israël-Palestine, une guerre sans fin, avec un point d'interrogation. On est dans le 13e jour de cette guerre. Dans l'affichage, c'est la guerre de Donald Trump et d'Israël contre l'Iran. Mais en réalité, c'est plus la guerre de Benjamin Netanyahou que celle de Trump?
Non, je dirais que c'est autant l'une que l'autre. Simplement, je dirais l'objectif n'est pas nécessairement le même. L'objectif israélien, je ne dis pas qu'il sera atteint, mais l'objectif affiché, c'est très clairement de faire tomber le régime. Ça a été dit publiquement, et donc ça veut dire une alternative politique. Et l'alternative politique pour Israël, elle est assez claire, ce serait le fils du chat. Et évidemment, une transition qui permettrait l'avènement d'un régime plus démocratique et donc aussi plus favorable à Israël, parce que c'est évidemment ça qui est derrière. L'objectif de Trump, je serais bien incapable de le donner. Parce
il est à géométrie variable.
Voilà, il est à géométrie variable. Un jour, il parle dans l'effet de changement de régime. L'autre fois, il dit, bon, ben, quand on aura atteint l'essentiel de nos objectifs, ce qui ne précise pas par ailleurs. Donc, voilà, c'est la même guerre dans le sens où ils se sont partagés aussi le travail d'un point de vue opérationnel, à l'évidence. C'est une concertation, ça n'est pas quelque chose qui a été improvisé comme ça.
Mais lequel des deux a entraîné l'autre?
Ça, c'est difficile à dire. Je pense
c'est la question qu'on n'a pas encore tranchée, mais
non,
qui est pourtant essentielle.
Je ne sais pas si on la tranchera rapidement. Ce qui est sûr, c'est que depuis longtemps, Israël voulait et souhaite un changement de régime, ça c'est évident. La guerre actuelle va au-delà des frappes du mois de juin dernier, qui étaient beaucoup plus limitées, puisque c'était vraiment sur
le nucléaire.
Là, on ne parle quasiment pas du nucléaire, en réalité. Les cibles sont l'appareil répressif, tous les points stratégiques, l'armement, etc.
Et ils ciblent même les infrastructures pétrolières, ce qui plaît pas trop à Donald Trump.
Oui. Alors, bon, l'histoire des dépôts, on peut dire les dépôts de pétrole, c'est aussi parce que le pétrole, il sert à faire avancer les chars et les camions. Donc, en ce sens-là, ça peut aussi avoir un objectif.
Donc, Israël ne cherche pas à arrêter la guerre au plus vite. Contrairement à Donald Trump, on a l'impression qu'il se bat chaque jour comme si c'était le dernier jour de l'opération.
Oui, je crois que ça c'est vrai. La temporalité peut être en train de changer. Bon, encore une fois, il faudra voir ce que ça donnera du côté américain, mais du côté israélien, oui. Je dirais que le sentiment général de l'armée et d'une bonne partie de la classe politique, c'est de dire que il faut cette fois aller jusqu'au bout, c'est-à-dire véritablement qu'il y a un effet politique de l'offensive militaire.
Et il n'y a pas que l'Iran, il y a aussi le Liban. Et ce matin, le ministre de la Défense israélien a dit que son pays se tenait prêt à prendre des territoires au Liban. Alors, ce n'est pas n'importe qui parle, hein, le ministre de la Défense, c'est un jusqu'au boutiste, mais tout de même.
Alors, ce qui est assez clair, c'est que à minima, il y a l'intention de réinstaurer une zone dite de sécurité au sud, qui existait entre 1978 et 2000, et qui ensuite a été évacuée par Israël à l'époque de Ehud Barak, donc en 2000. Et depuis cette époque-là, les Israéliens ne sont plus présents sur le territoire libanais. L'idée qui se dessine, c'est de faire quelque part une zone tampon, c'est-à-dire d'éloigner les troupes, en tous les cas le Hezbollah, au-delà d'une dizaine de kilomètres au nord de la frontière israélienne.
D'ailleurs, il y a des troupes qui sont déjà rassemblées à la frontière aujourd'hui.
Oui, oui. Alors, il y a déjà, de toute façon, il y a eu des mouvements de population du côté libanais, ça on le sait. Mais l'idée serait peut-être que cette zone soit en partie une zone rendue, je reprends le langage militaire, un peu plus étanche qu'elle ne l'était auparavant.
Et l'autre idée, c'est évidemment de se débarrasser du Hezbollah, qui est l'un des proxys, comme on dit, de l'Iran. Israël menace même le Liban de s'en occuper lui-même du désarmement du Hezbollah. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'où ? Parce que là, Beyrouth est vraiment sévèrement pilonné. Hein.
Oui, oui, oui. Alors, s'occuper lui-même, ça voudrait dire quand même à terme, inévitablement, une offensive terrestre. Parce qu'on peut bombarder, on peut détruire beaucoup de choses, évidemment, du ciel. Et ça, visiblement, le cas dans la banlieue sud, qui est le fief du Hezbollah. Mais aller au-delà, c'est-à-dire vraiment parvenir à un désarmement quasi intégral du Hezbollah, ça ne pourrait se faire qu'avec une opération terrestre. Et là, évidemment, ce sera plus compliqué aussi pour Israël.
Alors, on a l'impression que depuis qu'il y a des forces d'extrême droite dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, il y a un basculement vers le tout militaire et que finalement la diplomatie n'est que secondaire.
Alors, je dirais pas que c'est uniquement la présence de l'extrême droite au gouvernement qui incline à ça. Je crois que ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que ce qui se passe dans les offensives, dans l'offensive israélienne actuelle sur l'Iran, c'est quand même aussi en lien avec le 7 octobre 2023. C'est-à-dire que quelque part, cette phase de la guerre actuelle, comme la lutte contre le Hezbollah, il faut les comprendre aussi par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. En fait, je dirais que encore une fois, on mesure, je dirais peut-être chaque jour encore davantage, que le 7 octobre a été vraiment, on l'a beaucoup dit, un traumatisme, c'est vrai, mais qui a conduit quelque part, je pense, du côté des décideurs politiques et militaires, une conclusion, c'est que on ne pouvait plus cette fois-ci s'arrêter au milieu du gué. Il fallait une fois pour toutes se débarrasser de ses ennemis.
Et au passage, est-ce que Benjamin Netanyahou n'est pas en train d'essayer de faire oublier l'impréparation militaire qui avait justement abouti au 7 octobre ?
En un certain sens, oui. Je ne dirais pas que c'est motivé par ça. Mais évidemment, quelque part, il redore un peu son blason auprès de l'opinion publique, qui d'ailleurs, vous l'avez dit très justement, et le soutient de façon très très forte.
8 Israéliens sur 10, parce que ce pays est dans la guerre. Alain Dikoff, Benjamin Netanyahou a passé en tout 18 ans et 5 mois à la tête du gouvernement depuis 1996. C'est une longévité record en Israël. Il est la figure centrale de la politique israélienne, que l'on l'adule ou que l'on le déteste. Des élections sont prévues en octobre prochain. Le Likoud, son parti, est en tête dans les sondages. L'opposition n'existe pas depuis le 28 février, par conviction ou par pragmatisme ?
Non, je dirais qu'il est assez clair qu'il y a une union sacrée, qui est le résultat de quelque chose qu'on peut aisément comprendre, c'est qu'il y a un consensus, en fait, dans la classe politique israélienne pour considérer que l'Iran est depuis 1979 l'adversaire, voire l'ennemi principal d'Israël, que là, il y a une occasion peut-être unique de changer le régime, de le renverser. Encore une fois, je ne dis pas que ça se passera, mais on verra. Et ça, ça a fait une unanimité, tout simplement parce que faut jamais oublier que la République islamique a toujours considéré qu'elle avait deux ennemis essentiels. D'abord, le grand Satan, c'était les États-Unis, le petit Satan, c'était Israël. Mmh. Et l'hostilité à Israël est dans l'ADN de la République islamique, ça c'est tout à fait évident.
Mmh. Et l'opposition n'existe pas en ce moment?
L'opposition, elle partage cet objectif, donc elle peut pas critiquer Netanyahou sur ça. C'est impossible de critiquer.
C'est-à-dire les grandes manifestations qu'on avait vues contre la réforme de la justice, ça c'est inimaginable parce que le pays est en guerre en ce moment.
Non, parce qu'il y a aussi un consensus, encore une fois. Je crois qu'il ne faut pas le négliger. Tout le monde s'accorde à dire que le régime iranien est un régime hostile par définition. Donc là, il n'y a pas de différence entre Yair Golan à gauche et Netanyahou à droite. Les manifestations auxquelles vous faites allusion du début de l'année 2023, c'est-à-dire avant le 7 octobre, c'était un contexte purement interne. Là, oui, là, le débat, il existe en interne, sauf qu'il n'est pas à l'ordre du jour maintenant.
Alors justement, parlons de Gaza. Vu du côté de la société israélienne, la plaie ouverte le 7 octobre s'est-elle finalement refermée après le retour du corps du dernier otage ?
Ça a marqué un tournant, c'est-à-dire que jusqu'au retour du dernier otage, il continuait à y avoir des mobilisations, en particulier à Tel Aviv, pour réclamer le retour des otages vivants ou malheureusement décédés. Cette mobilisation, elle n'a plus lieu d'être, donc il ne se passe plus rien. Et quelque part, ça accroît encore le sentiment un peu d'unanimité autour de Netanyahou, indéniablement.
En tout cas, la guerre en Iran détourne l'attention de Gaza, alors qu'il y a toujours des frappes, que l'aide humanitaire entre encore au compte-gouttes. Où en est le plan de paix? On n'est pas entré dans la deuxième phase la plus délicate, celle du désarmement du Hamas?
Non, pas du tout. On stagne. C'est-à-dire que le territoire de Gaza continue à être occupé à peu près à hauteur de 30% par l'armée israélienne. Le reste est donc livré au Hamas et en partie à l'anarchie, et en fait on n'a pas avancé, puisque le Conseil de la paix qui est censé entre autres aider à la transition, pour l'instant il ne fonctionne pas, donc voulu par Donald Trump.
Et Israël gagne du terrain, c'est le problème de la fameuse ligne jaune dans la bande de Gaza. Après le cessez-le-feu, les troupes se sont repliées sur cette zone, mais elle ne cesse de s'étendre et elle recouvre aujourd'hui 60% de l'enclave.
Oui, alors c'est là évidemment qu'il y a des gains de territoriaux qui sont progressifs, sans qu'on connaisse pour le moment véritablement l'objectif de tout cela. Mais c'est vrai que avec la fureur de la guerre contre l'Iran, Gaza passe au second plan, c'est très clair. Alors que évidemment des choses continuent à avoir lieu jour après jour, comme en Cisjordanie d'ailleurs.
Je voulais en parler parce que la colonisation gagne du terrain en Cisjordanie. Il y a même un nouveau texte qui a été voté il y a quelques jours, qui facilite l'achat des terres par les colons.
Oui, ben là, on voit clairement la pression du lobby des colons, ça c'est évident.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'État palestinien tant que Benjamin Netanyahou sera au pouvoir?
Au moins, il faut accorder à Netanyahou qu'à une exception près, dans sa vie politique, il n'a jamais voulu d'État palestinien. Donc là, il est constant dans son refus. Simplement, là, il a vraiment l'opportunité de l'empêcher pour un bon moment. Je crois que c'est ça qu'il a en tête aussi.
Et l'opinion le suit aussi là-dessus? Sur ce qui se passe en Cisjordanie?
C'est plus nuancé. Oui. C'est plus nuancé. Mais je dirais que il a malgré tout un boulevard un petit peu devant lui, parce que ceux qui défendraient encore aujourd'hui une solution à deux États, ils sont totalement inaudibles. Ils existent, mais ils sont totalement inaudibles.
Le 8 octobre 2023, Benjamin Netanyahou promettait que la guerre allait changer le visage du Moyen-Orient. Est-ce qu'il est en train de réaliser cet objectif?
Alors, je ne me souvenais plus de cette prophétie, mais si je puis dire, mais oui, ça c'est clair, il y a un vrai changement. Le Moyen-Orient, quel qu'il soit dans les semaines à venir, il n'est plus le même. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que la logique qui voulait que finalement, il y a une sorte de modus vivendi avec l'Iran et ses proxys, ça c'est terminé.
Merci beaucoup, merci pour votre décryptage, Alain Dikoff. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po. À suivre, le monde à l'endroit, Louise Baudet.
La guerre contre l'Iran qui occulte Gaza, mais aussi l'Ukraine, et pourtant Zelensky veut rester dans les radars.
Et ce sera juste après ça. It's a horror. De Dry Cleaning et leur parler chanter sont dans la playlist d'Inter avec ce dernier titre, Joy.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le monde à l'endroit. Louise, Volodymyr Zelensky est en visite à Paris demain. Il sera d'ailleurs sur France Inter, une interview exclusive que vous pourrez écouter à 18h. Louise, vous nous expliquez pourquoi la guerre au Moyen-Orient, qu'il place au second plan, est en même temps une occasion pour lui de prendre sa revanche.
Oui, rappelez-vous, you don't have the cards, vous n'avez pas les cartes. Claque infligée à Zelensky par un Donald Trump sûr de sa toute-puissance, c'était il y a un an. Humiliation planétaire depuis le bureau ovale, resté dans les annales, eh bien des cartes. Il en a désormais une, le président ukrainien, son expertise en matière de drones. Expertise accumulée en 4 ans de guerre, car des drones, la Russie en envoie en moyenne 200 chaque nuit sur l'Ukraine, semeur de morts et de destruction. Les Shahed, livrés par l'Iran à Moscou, sont désormais copiés dans les usines russes et l'Ukraine a appris à les intercepter. Or, ce sont ces mêmes drones qui pleuvent aujourd'hui sur les monarchies du Golfe et les forces américaines déployées dans la région. Des drones bien plus efficaces que les États-Unis et leurs alliés ne l'avaient imaginé. Résultat, Kiev envoie des militaires et des ingénieurs à pied d'œuvre depuis hier au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite pour livrer leur expertise.
C'est vrai que le retournement de situation est assez spectaculaire.
Eh oui, maintenant tout le monde comprend que nous avons de bonnes cartes, peut dire Volodymyr Zelensky, fier de pouvoir aider ses partenaires américains. Lui qui était accusé il y a un an de ne pas suffisamment remercier les États-Unis se retrouve en position de les conseiller, au point que les propres fils de Donald Trump ont décidé de parier sur cette expertise. Le Wall Street Journal raconte qu'ils investissent dans l'achat de la technologie ukrainienne pour vendre des drones à l'armée américaine. Au début de la guerre, l'aîné, accusé pourtant Zelensky d'être la reine internationale de l'aide sociale.
On l'entend, les temps ont changé, d'accord, mais que peut espérer Zelensky en retour?
Mais c'est là que ça se corse. Hein. L'Ukraine espère faire de son expertise un levier pour renforcer ses alliances internationales. La coproduction de drones sera d'ailleurs au menu des discussions demain à l'Elysée. Et avant cela, le VRP Zelensky a topé aujourd'hui avec le président roumain. Mais ce qu'il veut surtout obtenir, ce sont des missiles patriotes américains, seuls à même de protéger efficacement les villes ukrainiennes. Or, les réserves sont vides. Les États-Unis ne fournissent déjà plus de patriotes à l'Ukraine depuis plus d'un an. Et la guerre au Moyen-Orient absorbe l'essentiel des stocks d'armes anti-aériennes américaines.
Et puis, la guerre au Moyen-Orient est aussi une opportunité pour la Russie.
Et oui, d'abord, cette crise éclipse le conflit en Ukraine, qui sort au moins temporairement des radars médiatiques et diplomatiques. Et puis surtout, le choc pétrolier qui est en train de se jouer fait à court terme les affaires de Vladimir Poutine. Les prix des hydrocarbures s'envolent, même ceux du pétrole. pétrole et du gaz russe bradés depuis 4 ans et les caisses du Kremlin qui se vidaient dangereusement se remplissent à nouveau. D'autant que les sanctions imposées à la Russie pourraient être allégées. C'est en tout cas ce que souhaite Washington. Trump et Poutine se sont parlé au téléphone il y a 3 jours. Échange jugé bon et positif par la Maison-Blanche, alors même que selon la presse, Moscou fournit du renseignement à l'Iran pour cibler les forces américaines dans le Golfe. Il est vrai que Donald Trump n'est pas à une contradiction près. Et qu'à cette aune, l'expertise ukrainienne en matière de drones pèse peu. Comme quoi, une bonne carte ne suffit pas à faire une bonne main.
Merci Louise. Nous sommes près d'un pont en construction. La Chine, qui cherche à toute force à récupérer Taïwan, a trouvé une idée. Lui imposer un cordon ombilical et relier le continent, avec l'archipel de Kinmen, qui est situé à seulement 3 km de la Chine, mais qui fait partie du territoire taïwanais. Sur place, le pont divise les 120 000 habitants. La suite, c'est Sébastien Berriot, notre correspondant en Chine, qui la raconte.
Nous sommes à bord du bateau qui relie tous les jours la grande ville chinoise de Xiamen au petit archipel taïwanais de Kinmen. La scène est insolite. En pleine mer, la Chine a réalisé ici un énorme pont. Le chantier semble presque terminé. Mais au-dessus du dernier pilier, le pont et son tablier s'arrêtent net au-dessus de la mer. La partie taïwanaise, en effet, n'a pas autorisé le prolongement de l'ouvrage dans ses eaux. Après 30 minutes de trajet, notre bateau nous dépose sur l'archipel où ce projet routier est au cœur des débats. Les îles Kinmen vivent essentiellement du tourisme et dans les milieux économiques, on est très favorable au pont. Sui Chengshen nous accueille dans l'un de ses restaurants. C'est l'un des hommes d'affaires les plus connus de Kinmen où il a développé une spécialité très appréciée des touristes, la soupe au bœuf nourrie au sorgho. Pour lui, l'archipel doit être relié physiquement à la Chine et cela n'augmente pas le risque de guerre.
Je soutiens la construction de ce pont car un voisin proche est mieux qu'un parent éloigné. La guerre moderne est désormais basée sur les hautes technologies. Un pont ne changera rien en cas de guerre. Mais sur le plan commercial, une fois le pont achevé, la fréquentation augmentera et notre activité sera meilleure. Je suis favorable à ce pont à 100%.
Mais dans cette île où les 120 000 habitants se sentent souvent chinois avant d'être taïwanais, il y a aussi de la méfiance pour une partie de la population. York, par exemple, possède plusieurs chambres d'hôtes en bord de mer. Le pont lui amènerait des touristes chinois, mais pour lui, ce n'est pas du tout une bonne idée.
Si nous étions en paix, je ne m'opposerais pas à ce pont. Mais dans la situation actuelle, je ne pense pas que sa construction soit une bonne idée. Kinmen fait partie de Taïwan et je pense que ce pont est un moyen de briser l'unité de Taïwan.
La Chine, en voulant imposer ce pont, ne cache pas que cet ouvrage entre dans son objectif de réunification de Taïwan. Et c'est ce qui fait peur à cette enseignante taïwanaise venue exercer à Kinmen.
Moi, je soutiens l'indépendance de Taïwan. Ce pont n'est pas une bonne chose. Je vis ici et je ne veux pas que la tranquillité soit perturbée. À l'heure actuelle, notre seul moyen de transport entre les deux rives, c'est le bateau. Si un transport terrestre était mis en place, de nombreux individus peu recommandables pourraient se rendre beaucoup plus facilement de ce côté-ci. Comment pourrions-nous alors gérer nos contrôles frontaliers ? C'est une question très sérieuse. Si ce pont est construit, je retournerai vivre à Taipei.
Au-delà des peurs pour la sécurité et l'intégrité de l'île, le pont avec la Chine fait craindre aussi une perte d'identité. Dans ce bar à musique de Kinmen, le patron et ses clients redoutent qu'avec le pont, l'archipel se développe trop vite, comme en face en Chine.
Si ce pont venait à être achevé, Kinmen fera face à un afflux de touristes, ce qui ferait disparaître notre belle histoire et notre héritage culturel. L'économie de Kinmen deviendrait alors dépendante des touristes chinois. Et en cas de détérioration entre les deux rives du détroit, Kinmen serait comme une sorte de pion pour les Chinois. Il fermerait le pont, coupant notre commerce, et il pourrait ainsi manipuler notre île.
Le gouvernement indépendantiste à Taipei résiste au projet chinois. Aucun chantier n'a démarré côté taïwanais. Le demi-pont construit par la Chine reste pour l'instant une impasse.
Reportage à Kinmen, signé Sébastien Berriot. Notre tour du monde se poursuit avec trois nouvelles étapes dans Sous les radars, Guillaume Oda.
Il se terre, il se cache, mais nous, on l'a vu venir en Hongrie, le Kremlin cherche à manipuler le prochain scrutin.
Et dans la tech, la première, Stéphane Jourdain.
Quelles sont les nouvelles tendances en matière de fausses images générées par l'IA dans la guerre au Moyen-Orient ?
La suite passe par le Brésil avec Dom La Nena, chanteuse et violoncelliste, aussi habituée de l'Hexagone. Elle a tourné par exemple avec Jane Birkin. Voici Nomé au País.
Não venho daqui, não venho de lá. Não venho de nenhum lugar. Não sei onde nasci, não lembro onde cresci. Mas sei que sempre tive um lar. No meu país. Se é feliz. Ser feliz lá sempre se só se respira amor e o sol nunca se pôs e os homens são de qualquer cor.
Un titre qui date de 2012, extrait du tout premier album de Dom La Nena. C'est le choix musical de Djoubaka. Une bataille de l'ombre en Hongrie, Guillaume, celle que mène le Kremlin pour maintenir coûte que coûte Orban au pouvoir.
Un dirigeant fort et souverain qui parle d'égal à égal avec les grands de ce monde, un homme politique, le seul en Europe qui tient tête à Bruxelles. Ce portrait dithyrambique de Viktor Orban, ça n'est pas moi qui le brosse, je ne fais que rapporter ici ce que l'on dit de lui sur les réseaux sociaux hongrois, littéralement noyé, mais noyé sous une déferlante de postes partisans. À un mois des élections législatives, on ne découvre pas certes qu'une campagne, ça se joue également en ligne. Ce que l'on apprend en revanche, c'est que Moscou est à la baguette, selon des sources du Financial Times. L'administration Poutine a directement validé une opération d'influence à base de mèmes, de vidéos virales et autres contenus fabriqués en Russie, diffusés par des influenceurs hongrois, tout cela pour sauver le soldat Orban en difficulté dans les sondages face à son rival Magyar, présenté comme une marionnette de la Commission européenne. Une défaite du Premier ministre hongrois le 12 avril prochain, ce serait une gifle, une baffe pour le Kremlin. La fin de campagne en Hongrie s'annonce brûlante.
Avec l'Algérie dans le rétroviseur, le Maroc accélère dans sa course aux armements.
Et si bien qu'en 2025, le royaume chérifien est devenu le premier acheteur d'armes en Afrique. C'est un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm, qui nous l'apprend. Et c'est un bouleversement des équilibres sur ce continent. Concrètement, les importations de matériel militaire effectuées par Rabat ont augmenté de 12% ces 4 dernières années. Le contexte, vous le disiez Christelle, c'est celui d'une rivalité constante avec Alger. Leur relation est marquée par des tensions politiques tout autant que stratégiques autour notamment du Sahara occidental, un point de crispation majeur entre les deux pays. Le Maroc dépense l'équivalent de 5,5 milliards de dollars par an, se procure de nouveaux blindés, des drones, des F-16. À l'échelle internationale, les volumes restent modestes, mais ils disent deux choses. D'abord, le Maghreb, comme le reste du monde, s'est lancé dans la course aux armements. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est ainsi que va l'époque. Et puis deux, à travers ses achats, le Maroc renseigne sur ses alliances. Trois pays ont les faveurs de Rabat, les États-Unis, Israël et la France.
David Hockney is probably Britain's greatest living artist.
David Hockney, ou l'histoire d'un pape de la pop peinture britannique qui passe au numérique.
Elle était dure, hein, cette allitération.
Oui, j'y suis arrivée. Voilà.
Cela fait un certain temps, en réalité, que le plus grand artiste vivant du Royaume-Uni a troqué ses pinceaux pour une tablette numérique. Ça date du Covid et du confinement, à un moment où les magasins de matériel beaux-arts, commerce dit non essentiel, on se demande pourquoi, avaient baissé le rideau. À ce moment-là, David Hockney vivait en Normandie. Il s'était offert un iPad qu'il n'a plus jamais lâché, sur lequel il a réalisé des centaines de paysages, de chemins fleuris, de pommiers, de vertes prairies. Ce travail, tout en pixels, est saisissant parce qu'il rappelle au pigment près ce qui a fait son succès à la fin des années 1960. On pense à ces piscines californiennes, Bigger Splash, un plongeoir, un bassin, des lignes claires, des couleurs franches. A Year in Normandie, c'est à voir à partir d'aujourd'hui à Londres, à la Serpentine Gallery. Pièce maîtresse, une frise monumentale qui fait le tour de la salle et qui rend hommage à quoi ? À la tapisserie de Bayeux. Comme elle, David Hockney, 88 ans, est éternel.
Et c'est vrai que sa façon de faire la pluie, de dessiner la pluie, ouais, en numérique, c'est absolument magique. Merci Guillaume.
France Inter, le 18-20.
La tech la première, la guerre au Moyen-Orient et son lot de fausses images générées par l'IA. Ce soir, Stéphane Jourdain, vous vous demandez si on n'est pas arrivé à un point où les gens voient passer sur leur réseau plus de fausses images que de vraies.
Oui, le corps de Ramenei enseveli sous les décombres, la pluie de missiles qui tombe sur le centre-ville de Tel Aviv, l'incendie géant du gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï, ou le fameux avion de chasse américain qui parvient à éviter de justesse un missile iranien. Toutes ces images ultra-virales, vous les avez vues et pourtant elles étaient fausses, pour la plupart générées par une IA. Le nombre de pays, d'acteurs, d'intérêts impliqués dans cette guerre, le fait que des drones et des avions de chasse soient mobilisés, que des data centers et la capitale mondiale des influenceurs soient visés, et les avancées récentes des IA génératives bien sûr, tout cela a favorisé un afflux massif de fausses images. Et on a demandé à un chercheur, Mustapha Ayad, qui décortique la désinformation dans les conflits depuis 15 ans, ce qui le surprend plus en la matière depuis le début de cette guerre.
C'est la vitesse. Ces fausses infos sont maintenant diffusées sur toutes les plateformes à une vitesse telle que ça va trop vite pour les médias traditionnels. La surprise, c'est vraiment ça. La vitesse et la quantité de contenu qui sont poussés à une audience de plus en plus grande.
Ça va trop vite pour les médias. Autrement dit, un mensonge fait le tour du monde pendant que la vérité met ses chaussures. Et voilà les conséquences de cette dissymétrie.
Les gens sont sous-informés, ou alors ce sont de fausses infos, et donc ils sont incapables de dire qui a fait quoi à qui et quelle est l'étendue des dégâts. À la fin, qu'est-ce qu'on a ? Ce que j'appellerais un épais brouillard de guerre.
Un épais brouillard de guerre. En sommes-nous arrivés à un point où les gens voient plus de fausses images que de vraies images ?
Je ne sais pas si c'est la première fois que les gens voient plus de faux que de vrais. Mais ce flot est sans fin et ça continue encore à l'heure où je vous parle. C'est un élément essentiel de cette guerre des récits, ou vous pouvez appeler ça la guerre de propagande.
Alors d'où viennent ces faux ? Qui les poste ?
Et quels sont leurs réseaux ? Il y a de tout, selon Mustapha Ayan.
On a vu beaucoup d'individus partager ces contenus dans leur coin, mais aussi des réseaux pro-étatiques, et même des médias d'État comme les télévisions iraniennes. Donc c'est un espèce de mix qui mène à ce qu'on pourrait appeler, à bien des égards, un conflit inondé par l'IA générative.
Un conflit inondé par l'IA générative.
Reste à savoir quel est le mobile quand même.
Oui, d'après une responsable de X, pour 99% des faux sur cette guerre publiée sur son réseau social, le mobile, ce n'est pas la politique, c'est la monétisation des vidéos. Dur labeur, puisque ça rapporte 10 dollars par million de vues. Alors on a demandé à un spécialiste de ces contenus IA, Evangelos Kanoulas, professeur à l'université d'Amsterdam, si ce chiffre lui paraissait crédible.
C'est quelque chose qui existe, bien sûr. Mais pour moi, la plupart, c'est pour des raisons politiques. C'est de la pure propagande.
Et pour lui, s'il y a bien un épais brouillard de guerre, ce n'est pas seulement à cause des fakes.
Nous vivons dans un monde où la réalité s'affiche en temps réel sur nos écrans. Il y a une pression, il faut produire, c'est afflux continu. Mais si vous faites 10, 20 articles par jour, c'est impossible de faire les choses bien, de vérifier d'où vient une image, ou même d'ailleurs d'écrire votre propre texte. Même pour ça, ça devient tentant de recourir à l'intelligence artificielle.
Difficile de vérifier d'où vient une image.
Et d'ailleurs, un cas a particulièrement attiré votre attention, Stéphane.
Oui, une photo que vous avez peut-être vue, nette, bien exposée, particulièrement saisissante. On y voit un pilote américain, treillis militaire, casque d'avion sur la tête, à genoux, les mains en l'air, devant un homme, t-shirt blanc, qui le menace avec une barre de fer. Tout est si spectaculaire, propre, net, qu'on dirait une photo IA.
Et pourtant, c'est une vraie photo ?
Oui,
c'est ça ?
Et non. Oui, car d'après l'enquête de l'AFP, cette scène est bien réelle. Il s'agit d'un des pilotes américains éjecté après avoir été touché par erreur par l'armée koweïtienne. Non, car la photo originelle est très floue, un peu fadasse, et c'est Gemini qui l'a rendue ultra percutante, jusqu'à transformer la réalité. Dans la photo retouchée, le pilote n'a plus que 4 doigts à chaque main, comme ça arrive avec l'IA.
D'autres cas similaires ont été documentés.
Comme cette photo d'une explosion près de l'aéroport d'Erbil qui a été modifiée pour donner plus d'ampleur aux flammes. Pour Christine Dugoin, chercheuse à la Sorbonne, l'objectif c'est de modifier le réel par petites touches pour cibler les émotions.
Mettre de la couleur vive, l'accent sur un point ou sur un autre, et ça permet non pas forcément de créer du faux, mais d'orienter la réalité. On va instrumentaliser du vrai. C'est beaucoup plus difficile à détecter, c'est beaucoup plus difficile de s'en prémunir, donc ça participe à devenir beaucoup plus efficace.
Pour elle, c'est une nouvelle phase dans l'usage des deepfakes qui s'ouvre.
Ce que l'on voit dans les étapes, c'est que pendant un moment, c'était créer du faux pour faire croire à du faux. Maintenant, c'est instrumentaliser le vrai et la finalité, c'est ne plus faire croire en rien, qu'il n'y ait plus de repères, ce qui vous permet d'adhérer plus facilement à un discours qui vous dira, voilà, je vous propose une vision du monde. Est-ce que vous voulez adhérer à cette vision du monde ou pas, qu'elle soit corrélée à la réalité ou pas.
Et d'ailleurs, même les chefs d'État ont recours à l'IA générative sans le dire.
Oui, ce que vous entendez là, c'est Benjamin Netanyahou qui parle en farsi pour s'adresser aux Iraniens dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le gouvernement israélien a cloné sa voix sans préciser que c'était l'IA.
Eh ben c'est du faux plus vrai que vrai, ça fait peur quand même. Hein. Merci beaucoup Stéphane.